au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Axel Mauger.
Chers auditeurs, aujourd'hui, je vais évoquer le nouveau livre de Maurice Druon qui s'intitule « Mémoire 2 », c'est le deuxième tome, et le titre « C'était ma guerre, ma France et ma douleur » chez Plon et aux éditions de Fallois, donc 2010. Maurice Druon est pour nous tous, chers amis, un grand témoin. Avant de nous quitter en avril 2009, Maurice Druon nous a offert le premier tome de ses mémoires, certains d'entre vous s'en souviennent, et il s'intitulait « L'aurore vient du fond du ciel », dans lequel il décrit le cheminement de ce qu'il appelle son vouloir vivre à travers les ascendances géographiquement les plus diverses, puis avec allégresse, il nous dit comment, pendant les années qui séparent la Première Guerre mondiale de la Seconde, il est devenu ce qu'il est. La véritable raison d'être de ses mémoires, que ce soit le tome 1 ou le tome 2 dont je vais parler tout à l'heure, se trouve dans quelques lignes écrites par l'académicien. Je cite « Suite profane d'une tradition sacrée, les mémoires sont le vêtement qui nous habillera sur notre lit de mort, le vernis de notre sarcophage. Le témoignage est l'acte terminal de notre mission, sa perfection au sens premier du terme. » Ce premier tome s'arrête à l'année 1939, juste avant la terrible défaite qui secouera durablement la France. Au fil des chapitres, avec talent, Maurice Druon évoque Joseph Kessel, son oncle, Saint-Exupéry, le souvenir du grand Mermoz et de quelques autres belles figures. L'attente de la guerre, son passage à l'école de cavalerie de Saumur, il en profite aussi pour dire adieu à une France balsacienne. Le deuxième tome de ses mémoires titré, je l'ai dit tout à l'heure, « C'était ma guerre, ma France et ma douleur », vient tout juste de sortir. Il paraît donc à peine un an après la disparition de l'ancien secrétaire perpétuel de l'Académie française. Dans ce livre, il nous fait revivre les années 1939-45, que furent pour lui, comme pour tous ceux qui les ont vécues, des années décisives au cours desquelles il découvrit tout à la fois l'amour de sa patrie et la douleur de l'avoir humiliée. Il évoque la débâcle, raconte l'exode. On comprend que plongé dans de tels événements, l'aspirant Druon devienne un autre homme. Lui, l'amoureux de poésie, ose écrire, je cite, « La poésie n'avait plus à mes yeux la même importance, un autre ordre de valeurs s'était établi en moi. » Ce qui n'est en vérité qu'à moitié vrai, puisque plus tard, au fil du récit de ce beau livre, lorsqu'il traversera la frontière espagnole pour gagner le Portugal, pour se donner du courage avec ses compagnons, il y avait dans le petit groupe Germaine Sablon et le grand Joseph Kessel, ils réciteront du Heredia, du Corneille, du Hugo, du Rostand et du Vigny. Passionnant le récit, on y rencontre des figures d'exception, comme les lieutenants Gabriel de Galbert et Hubert de Lalance. Le premier, avec son seul revolver, réussit à neutraliser deux chars allemands en tirant à travers les organes de visée avant d'être atteint par un troisième char. Le second officier, commandant la défense du pont de Montsoreau sur la Loire, à l'artère d'un bras sectionné, il se fait poser un garrot et, continuant de diriger la lutte, demande à l'un de ses hommes, toutes les heures et demie, de desserrer le garrot, je cite, « pour laisser pisser le sang et éviter la gangrène ». Maurice Druon ne cache pas qu'il admire au plus haut point les deux hommes. L'auteur, s'il a toujours aimé être admiré, a lui aussi su admirer ce qui était admirable. Avant de décider de rejoindre le Général de Gaulle, entre deux affectations, il en profite pour écrire « Mégaré ». C'est une pièce de théâtre, ce que certains critiques considéreront comme la première œuvre théâtrale de la Résistance. Au fond, comme tout être sensible et soucieux de bâtir harmonieusement sa vie, Druon a besoin d'aimer et d'être aimé. Les lignes qu'il réserve à l'oncle Jeff, c'est-à-dire Joseph Kessel, sont pleines de pudeur et de dévotion. Alors qu'ils attendent le guide qui va leur permettre de s'évader par l'Espagne, l'auteur confie, je cite, « Jamais nous ne fûmes plus proches. J'avais en Jeff un guide, un maître qui aurait pu être mon père. » Ce père qui lui a tant manqué, il aura la chance d'être épaulé par d'autres êtres de qualité comme son père adoptif. Il écrit encore en évoquant Jeff, je cite, « Il avait en moi une manière de fils qu'il admirait en tout et prenait la même voie dans le même art. Je lui procurais le sentiment d'avoir une descendance. » Fin de la citation. Druon a l'art de la formulation, avec style et panache. Il sait rendre son récit haletant, il est au cœur d'un monde qui bascule et fait tout pour ne pas se laisser entraîner dans la déshumanisation. Ce sont des hommes comme lui qui ont sauvé l'honneur de la France en exprimant des sentiments profonds plus souvent au-dessus d'une terrible mêlée. Sur une crête, il voit une dernière fois la France, donc au moment où il va franchir et entrer en Espagne, je cite, « Sur une crête, il voit une dernière fois la France et nous confie d'une telle place, dans un tel moment. Le mot « patrie » prend son sens qu'il n'a jamais eu, mais qu'il ne perdra plus. Ce n'est plus un mythe, une valeur, une histoire. C'est une réalité visible et vivante, un morceau de la surface terrestre qui vous appartient, auquel on appartient et dont se séparer est un arrachement quasi charnel. » Au fil des chapitres, les anecdotes sont plus que savoureuses. Pensons à la marquise Jeannette de Brissac, que l'auteur a aimé et à qui on apprend que son cousin, le prince d'Arenberg, un Allemand, un officier allemand, veut lui présenter ses hommages. La réponse de cette grande dame est étincelante, je cite, « Vous voudrez dire à nos cousins, mon cousin d'Arenberg, venu d'Allemagne, je ne puis le recevoir, car pour le moment, je suis trop occupé. » Druon, c'est essentiellement un style, une mémoire, une sensibilité française, une intelligence, le sens de la répartie, la bonne éducation, en un mot, les qualités françaises, l'esprit français. Comme vous l'avez senti, domine la volonté de résistance. Il évoque son passage au sein du curieux réseau CARTE, ses rencontres avec Henri Freinet et Emmanuel d'Astier de la Vigerie. C'est dans ce réseau qu'il aida un jour, sans le connaître, Jean Bernard, auprès de qui il siégea, donc auprès de lui, à l'Académie française. Maurice Druon est un témoin sûr, il ne facilifie jamais l'histoire comme certains. Lorsqu'à la page 128, il donne un tableau saisissant du sabordage de Toulon, on retient son souffle. Je cite « Quand au soir, officiers et marins traversèrent la ville encadrés par des soldats de la Wehrmacht, la foule toulonnaise les acclama et chanta la Marseillaise sur leur passage. L'honneur était sauf, même si de la fameuse Royale, la deuxième flotte du monde, il ne restait plus que l'escadre de l'amiral Godefroy, paralysée à Alexandrie en Égypte. Le résistant Druon n'hésite pas à raconter que Pierre Laval offrit un passeport à Joseph Kessel. Tout en souhaitant la victoire de l'Allemagne, Laval respectait le talent et même un talent juif. L'auteur, un pur gaulliste, reconnaît que cette offre de passeport doit être portée au crédit de Laval. En contrepartie, il faut préciser que Kessel refusa le sauf-conduit. Il ne pouvait moralement utiliser un tel passeport, c'eût été à jamais pour lui comme une salissure. Grâce à Maurice Druon, nous sommes au cœur de la grande comme de la petite histoire. Une fois arrivé en Angleterre après un mois de route, Maurice Druon et ses compagnons foulèrent avec soulagement le sol anglais. Ils découvrirent un pays où l'héroïsme était quotidien, héroïsme cher à la reine Elisabeth, la future Queen Mother, qui ne cesse de témoigner une attention particulière aux Free French, aux Français libres. L'auteur évoque bien sûr l'étonnante figure de De Gaulle qui avait l'art de se rendre incommode. Je cite « Comment pourrais-je céder sur rien puisque je n'ai rien ?» disait le général avec un sens génial de l'évidence. Il avançait d'un pas impérial sur un fil de fer, ajoute l'auteur. Présenté au général, ce dernier lui dit, je cite, « Vous êtes de ces bons Français qui nous dictent notre devoir. » 23 ans plus tard, lors de la rituelle audience d'agrément que De Gaulle donne comme chef d'État après l'élection de Druon à l'Académie française, le nouvel académicien évoque le temps de Londres. Réponse du général, je cite, « Oui, je me rappelle, vous étiez de ces bons Français qui nous dictaient notre devoir. » La même formule que 23 ans auparavant. Les mêmes mots exactement que lors de sa première audience. Et Druon de nous confier, je cite, « Cet homme-là n'avait pas le cerveau fait comme celui de tout le monde. » De Gaulle était né portant cuirasse. Il poursuivait un dialogue constant avec l'histoire. Toujours au fil des pages, la plume de Druon fit revivre d'autres résistants de poids comme Maurice Schumann, ou Jean Marin, ou encore Pierre Brossolette, et l'écrivain d'ajouter, je cite, « J'appris beaucoup de Brossolette sur la guerre secrète. Ce héros était d'autant plus admirable qu'il ne semblait nullement conscient de l'être. Il n'en avait pas le temps. » Conseil du mémorialiste, « Parisien, quand vous passez sur le trottoir du 84 avenue Foch, et j'ajouterai pour les amis de la France, rappelez-vous que c'est là que s'écrasa un homme dont le nom résume l'honneur français. Jamais ingrat notre mémorialiste, salue au passage ces Anglais francophiles, Harold Nicholson, un proche de Churchill, suprême civilisé, époux de la grande romancière Vita Sackville-West, ou Duff Cowper, autre ministre francophile, ou encore Charles Morgan, écrivain de qualité. Citons encore le critique et érudit Raymond Mortimer, dont les premières questions furent à Druon, bien sûr, comment va Mauriac, que devient Gide, que fait Sartre. L'académicien raconte encore que le 20 février 1942 sortit en France notre Birakem de l'esprit, Le silence de la mer, un chef-d'œuvre, l'œuvre de Jean Brulaire, un illustrateur de talent qui utilisa le pseudonyme de Vercors. Druon, bien sûr, le fit connaître. Dans ce témoignage aussi, il nous raconte la genèse du chant des partisans auquel il a fortement contribué. La guerre va bientôt s'achever et l'auteur évoque avec force quelques survivants, les dernières salves et les dernières horreurs, notamment la terrible découverte des camps de concentration. Toujours soucieux de lutter contre la terrible déshumanisation qui guette, il confie, je cite, « Chaque homme porte un monstre au fond de lui, il ne faut pas lui donner d'avoine. » Après avoir vu ce que l'homme pouvait infliger à l'homme et vu jusqu'où pouvait aller l'industrialisation de la haine, le résistant écrit avec soulagement, je cite, « Nous repartîmes vers nos armées avec un sentiment de délivrance, nous retournions à l'air pur. » Nul doute que le style donne vie à ce que l'on croyait disparu. Celui de Maurice Druon a l'élégance, le rythme, la richesse et les surprises d'un écrivain talentueux. On y trouve la force des choses vues et l'émotion souvent la plus vive. À la fin de ce livre, qui est un témoignage très émouvant, il écrit avec la conviction qui est la sienne, je cite, « Il y a probablement une frontière infranchissable entre ceux qui ont connu cette expérience, la guerre, et le reste de l'humanité. C'est pour tenter d'ouvrir quelques passages dans la frontière que ce livre fut écrit. » Voilà, chers auditeurs, le deuxième tome des mémoires de Maurice Druon, « C'était ma guerre, ma France et ma douleur ». Nous sommes dans cette période du 18 juin et évidemment, il faut se rappeler de ces moments très difficiles pour notre pays et d'autres pays et aussi remercier tous ceux qui résistèrent d'une façon admirable. Merci.